Silence.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Entre-deux-Mers 98.4 FM, www.re2m.com. C'est l'heure de la conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour Damien, tu vas bien ?
Ça va bien et toi ?
Bah, ça va parce qu'on va retrouver nos auditeurs. Alors moi dans ces cas-là, ça va toujours bien.
Et on vient parler cinéma et même si les cinémas sont fermés, l'actualité est quand même là. Et la semaine dernière, il y a eu la cérémonie des Césars et je sais que tu veux en toucher quelques mots.
Oui quand même, bah oui, c'est la 46e cérémonie des Césars. Alors elle a eu lieu, elle s'est déroulée à l'Olympia, l'Olympia Bruno Cocatrix, hein, puisqu'il y a son nom sur le... en dessous de l'Olympia, il y a le nom de Bruno Cocatrix. Alors, quelquefois, on dit l'Olympia tout court. Alors, l'Olympia Bruno Cocatrix, ça dépend, voilà. Donc, ça s'est déroulé là, effectivement. Ça devait être le soir, hein, 20h30, je crois, quelque chose comme ça. Ça a dû finir à minuit 45, ou un truc dans ce goût-là. Parce que c'est pareil, hein, ils ne voulaient pas trop s'attarder. Donc, ça a été, voilà... enfin, c'est ce qu'on a compris en tout cas. Donc, il y avait pour cette cérémonie des Césars. Alors, ben oui, d'abord dire que la maîtresse de cérémonie, c'était l'actrice Marina Foïs qu'on connaît, qui est très talentueuse. C'est une excellente actrice. Et le président, c'était Roche Dizem, qui est aussi un excellent acteur, bien sûr. On les connaît absolument. Donc voilà, c'était eux qui s'occupaient de la soirée. Alors, en fait, on va commencer par... Oui, je voulais dire, bon, ben, pour les actrices, par exemple. Alors, c'est Laure Calamy qui a le César de la meilleure actrice pour un film que j'ai vu, que je trouve adorable. Et je suis contente que ce soit elle parce qu'elle est formidable dans ce film. Antoinette dans les Cévennes. Alors, je ne vais pas dire qu'ils sont sortis en 2020, puisque c'est le cas, hein, puisqu'en fait, cette cérémonie des Césars récompense les films de 2020, bien entendu. Mais c'est quand même la 46e cérémonie des Césars 2021, puisqu'on est en 2021. Donc voilà, alors c'est elle, oui, oh là là, elle était... c'est très émouvant, enfin, parce qu'elle est... elle était contente, très contente, Laure Calamy. Je pense qu'on va l'entendre ces temps-ci. Elle va être interviewée, probablement, à droite, à gauche. Elle était vraiment très, très contente de recevoir ce César, absolument, qui lui a été remis, d'ailleurs, par Isabelle Huppert. C'est elle qui est montée sur scène pour lui remettre le César. Donc, ce film, je rappelle, hein, il est de la réalisatrice, ben ça y est, je vais trouver les mots, il n'y a pas de problème là, qu'est-ce qui se passe ? C'est Caroline Vignal, on la connaît parce qu'elle est souvent interviewée, elle, Caroline Vignal, pour parler de cinéma, qu'elle a dans la peau, c'est une passionnée, et elle fait de très beaux films. Et puis, il y a le César, évidemment, du meilleur espoir féminin, alors qui a été remis à Fatia Youssouf, qui est une jeune actrice de 14 ans, tout à fait délicieuse et on peut la voir dans Mignonne. C'est pour ce film Mignonne qu'elle a eu ce César du meilleur espoir féminin. Alors le film est de Masouna Doucouré. C'est un réalisateur français et qui commence bien.
C'est même une réalisatrice, il y a mieux ça.
Oui, Memouna, c'est pas un prénom de garçon. Merci, Memouna Doucouré, c'est une jeune femme effectivement. Oui, tout à fait. Oui, si je dis aux garçons qui s'appellent Memouna, ça va pas leur plaire. Hein. C'est un prénom très féminin. Donc c'est Mignonne, le film. Et voilà, c'est donc Isabelle Huppert également qui a remis ce César. Elle était absolument ravie, Fatia Youssouf. Tout à fait, elle est surprenante. Certainement qu'on entendra parler d'elle dans les années à venir concernant le cinéma. C'est sûr, elle a beaucoup de talent. Et puis, alors ensuite, on a le César de la meilleure actrice dans un second rôle. Donc là, on était meilleure actrice. Ensuite, on était espoir féminin. Et là, dans un second rôle, c'est Émilie Dequen qui a eu le prix. Donc elle était absente. Et c'est donc Jeanne Balibar qui a récupéré le César pour elle. Jeanne Balibar, c'est une grande comédienne aussi. Elle fait beaucoup de théâtre, c'est cinéma et théâtre. Donc c'est Émilie Dequen. Alors elle, c'est pour le film Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Voilà, c'est un sacré film aussi. Ben, j'espère que bientôt on pourra en parler. Ça voudra dire que les cinémas ont rouvert et que tous ces films-là, on pourra en parler et on pourra les voir. Et ben oui, bien sûr, on y pense tous et on espère absolument. Hein. Et puis ensuite, alors en fait au départ, il faut savoir que au tout début, on sait qu'il y a 55 nominations et 13 Césars qui vont être distribués. Bon, ça c'est. Ben, j'ai appris un truc un peu bizarre d'ailleurs. En même temps, ils en parlaient. Il y a un seul cinéma sur les Champs-Élysées qui est adapté aux handicapés. Il n'y en a qu'un sur les Champs-Élysées. Alors qu'il y a beaucoup de cinémas à cet endroit-là justement. Eh bien, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un pour les... Alors, bon, je ne sais plus qui en a parlé, quelle actrice en a parlé. Pas contente, quoi, voilà. Je l'avais noté parce que je ne savais pas ça. Je croyais que toutes les salles étaient équipées, moi, maintenant. Absolument toutes les salles de cinéma. Eh ben oui. Alors, si vous allez aux Champs-Élysées, ben, il n'y en a qu'une. Hein. Voilà. Donc, comme ça. Et elle n'a pas dit laquelle, mais il n'y en a qu'une. En tout cas, voilà. Alors, ensuite... On va passer aux messieurs, les acteurs qui ont reçu le César. Alors, le César du meilleur acteur, c'est Sami Bouajila qui l'a reçu. C'est-à-dire, le prix lui a été remis par Fanny Ardant. C'est pour le film Un fils de Mehdi M. Barsaoui. Ben, Sami Bouajila, on le connaît. Hein, c'est un grand, grand, grand acteur. Ça fait longtemps qu'il est dans le cinéma. C'est pas un débutant, c'est quelqu'un qui est très, très doué. Et voilà, et mesdames, mademoiselles, il a beaucoup de charme, franchement. Sami Bouajila, presque autant que, vous savez, hein, que Damien, quoi. Je le dis tout bas, hein, pour pas qu'il entende.
De quoi ? On m'a parlé ?
Non, j'ai pas parlé de toi, pas du tout. Non, je parlais de Sami Bouajila et de son charme. Voilà. Donc, il était très content. Il le mérite absolument. Il est très, très doué, cet homme-là. Et puis, il y a eu le César donc, du meilleur espoir masculin qui a été remis à Jean-Pascal Zadi. Alors, et c'est encore Isabelle Huppert, d'ailleurs, qui lui a remis le prix. Isabelle Huppert qui était là et qui était très en forme. Donc, lui, il a donc ce César du meilleur espoir masculin pour le film « Tout simplement noir ». Ça, c'est le titre, de Jean-Pascal Zadé et de John Vax, les deux réalisateurs. Jean-Pascal Zadé, c'est-à-dire lui, Jean-Pascal Zadé, il a réalisé aussi le film avec John Vax. Et donc, il a ce César, il était absolument très, très content. Et je pense qu'il le méritait. Je ne le connais pas trop parce que je l'ai pas vu dans un film. Ce monsieur, il est surtout réalisateur. Tout simplement noir. J'espère qu'on pourra le voir bientôt aussi. Ah oui, on va voir. Et puis le César du meilleur acteur dans un second rôle a été attribué à Nicolas Marié pour son rôle dans Adieu les cons, le film Adieu les cons d'Albert Dupontel. Le prix lui a été remis par Nathalie Baye. Alors Nicolas Marié, en fait, il a joué dans tous les films d'Albert Dupontel. Il est dans tous ses films. Mais on le connaît, Nicolas Marié, parce qu'on le voit aussi dans des séries à la télévision de temps en temps. Bah, c'est sûr qu'il a beaucoup de talent. Puis dans ce film, en plus, il a un rôle qui n'est pas évident du tout et dont il se sort absolument merveilleusement bien. Il a le rôle d'un aveugle, mais qui est très dynamique, quoi, un petit peu survolté même. Voilà, il a ce César. Alors, j'aurais dû commencer par dire que le grand triomphateur de cette soirée, ça a été Albert Dupontel, puisque Adieu les cons a reçu 7 Il y a 7 Césars pour le film. Il était absent et du coup, c'est la productrice du film qui est venue récupérer le César pour Albert Dupontel.
Il est largement mérité.
Ah oui, on l'a pas, il passera bon dans les salles, mais il est sorti une semaine. Voilà, il est sorti une semaine, j'allais dire.
Il a fait 700 000 entrées en une semaine.
En octobre, c'était, je crois.
C'était en octobre, oui, juste avant le couvre-feu, l'instauration du couvre-feu. Et j'ai eu la chance d'aller le voir. Vraiment, ça vaut le coup. Et donc, c'est tout à fait justifié.
Et donc, ils sont tous assez formidables là-dedans, d'ailleurs. Hein. Alors, adieu. Ah bah oui, César du meilleur film, donc. C'est pour Adieu les cons, qui est une comédie quand même, hein, qui est sortie justement en octobre, oui, en octobre 2020, qui dure 1h27 avec Albert Dupontel, réalisateur, scénariste. Il est acteur dans ce film aussi, il a 57 ans, donc il va pouvoir nous en faire encore de très très beaux, je pense. Il était absent, non pas parce qu'il ne souhaitait pas être là, mais parce qu'il était sur un travail. Voilà, donc... nous a-t-on dit. Voilà. Donc, il avait déjà eu le César de la meilleure réalisation en 2018 pour un film qui est très chouette, par contre, aussi, Au revoir là-haut, qui est sorti. On en avait parlé ici. J'en avais parlé dans l'émission cinéma. On avait parlé du film Au revoir là-haut, qui est sorti le 25 octobre 2017. On en avait parlé, absolument. Il y avait un film avec Laurent Lafitte, avec Nils Arestrup, Émilie Dequesne aussi, qui était dans Au revoir là-haut, Mélanie Thierry. Il y avait aussi un acteur argentin qui est très, très doué, Nahuel Pérez Biscaillard, qu'on avait vu dans Au revoir là-haut. En tout cas, il y avait eu un César tout à fait mérité. Alors, dans Adieu les cons, donc, j'ai dit le César de la meilleure réalisation, le César du meilleur scénario original. C'est Annie Dupéré qui l'a remis d'ailleurs. Le César de la meilleure réalisation, c'est Charlotte Rampling qui est venue sur scène le remettre. Il y a le César de la meilleure photo également, qui est à. Voilà, il y a le César, attends que je n'en oublie pas, le César du meilleur décor. Et il a le César aussi des lycéens. Et alors là, on est à 6 Césars et on compte le César de Nicolas Marié et on est à 7 Césars pour ce film. Voilà. Grosse gloire pour ce film. J'espère qu'Albert Dupontel, grâce à ce César et à tout ce qui en découle, j'espère qu'il pourra réaliser un autre film. Voilà, parce que c'est ça, hein. Les films se suivent et bon, quand tout est dans l'ordre et quand on peut refaire un film, parce que souvent il faut trouver l'argent, c'est les finances qui sont difficiles à trouver, mais là je pense que il pourra probablement trouver tout ce qu'il lui faut pour nous réaliser un autre film, parce qu'on se régale avec ces films, hein, c'est sûr. Et puis alors, il y a eu le César aussi du meilleur premier film, qui a été remis d'ailleurs par Virginie Efira, qui est dans... Ah oui, je voulais dire, dans Adieu les cons, on a Albert Dupontel, on a Laurent Lafitte encore. Ben, non, on a Virginia Efira. Voilà, on a Nicolas Marié, on l'a dit. Jackie Berroyer, oh, ben, on l'aime beaucoup, Jackie Berroyer. On a Philippe Huchan, qui est très doué aussi. Il a toujours des seconds rôles, et pas tant, Philippe Huchan. Il y a Bastien Huguetto, il y a Marie-Lou Ossiou, il y a Bouly Lanners. Oh, Bouly Lanners, on est content de le revoir. Michel Villermoz, Catherine Davernier, Terry Gilliam aussi. Tu l'aimes bien, toi, je crois, hein, le papa des Monty Python. Tu l'aimes bien, tu l'aimes bien, cet homme-là. Mais qui est dans le film aussi. Voilà, bah si tu l'as vu, tu t'en souviens probablement. Ça, voilà. Tu le reverras peut-être avec plaisir, si ça se trouve, non?
Oui, comme tous les films de Dupontel.
Ah ben bah oui, bien sûr. Donc voilà, j'avais oublié de donner le nom des acteurs quand même pour ce film vainqueur. Donc j'ai dit César du meilleur premier film. Le film s'appelle Deux, le chiffre 2, de Filippo Menghetti, pardon, qui est un réalisateur italien, il a 40 ans, c'est un drame, c'est romancé. Il y a Martine Chevalier, extraordinaire, Martine Chevalier, et Barbara Sukowa, c'est une actrice. Barbara Sukowa, c'est une actrice allemande, très douée également, qui est dans ce film 2, qui a reçu donc le César du premier film. Ensuite, on a le César du meilleur décor aussi, qui a été pour la comédie La Bonne Épouse, de Martin Provost, qui est un réalisateur français, avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, eh oui, et puis Noémie Lvovsky. Bon, bah, c'est des castings impeccables, ça, il n'y a rien à dire. Hein. La bonne épouse, à voir aussi la bonne épouse, hein, parce que... Ah oui. Moi, j'avais vu, je ne l'ai pas vu en entier, j'avais vu des extraits, je m'étais régalée, je m'étais dit, chouette, j'irai au cinéma. Et hop, les cinémas ont refermé les portes. Donc, à voir la bonne épouse. Puis, il y a eu le César du meilleur costume aussi, voilà, pour la bonne épouse également. Et puis, le César du meilleur son, alors ça, c'était pour un documentaire assez intéressant qui s'appelle Adolescente. Quand je dis assez intéressant, c'est intéressant. Ça s'appelle Adolescente, c'est de Sébastien Lifshitz. Alors lui, il a un nom qui n'est pas facile à prononcer. Oh, mes chéris, oh là là, Lifshitz. Bah oui. J'essaie, hein, c'est un réalisateur français. Il a 53 ans. C'est Reda Kateb, tiens, qui a remis le César du meilleur son pour Adolescente. Et puis il y a le César du meilleur montage aussi, qui a été, pour le même film, qui a été remis par un monteur d'ailleurs. C'est plus rare, ça, on a rarement vu. Qui s'appelle Yann Dedé et qui est un monteur de cinéma. C'est lui qui a remis ce prix à Tina Baz. Et puis, on a le César du meilleur film documentaire pour Adolescente encore. Donc, Adolescente s'en est bien sorti aussi. Hein. Un beau documentaire. Et puis, il y a le César de la meilleure adaptation qui a été remis pour le film La fille au bracelet. C'est un drame judiciaire. Hein. La fille au bracelet avec Chiara Mastroianni, il y a Mélina Gers. C'est Stéphane Demoustier, qui est un réalisateur français, un jeune réalisateur français qui l'a réalisé. C'est le frère d'Anaïs Demoustier, la grande comédienne qu'on connaît. Et oui, et c'est un scénariste auteur qui lui a remis d'ailleurs son prix, Pierre Lemaître. Et puis il y a le César de la meilleure musique aussi. Alors, c'est un Rhône, on le connaît, c'est un compositeur français, Rhône. Donc, c'était pour lui le prix de la meilleure musique. Pour le film La nuit venue, qui est un drame de Frédéric Farrucci, qui est un réalisateur français, avec Camélia Jordana, qui est dedans d'ailleurs, et Gwang Aluo, Gwang Aluo, qui est un acteur chinois, très très doué aussi d'ailleurs. César de la meilleure musique. Voilà. Donc là, j'ai vu. Ah, ben si, il y a le César du meilleur film étranger qui a été remis. Alors, pour un film dont on a parlé ici aussi, qui s'appelait Drunk, ici à Radio Outre-de-Mer, on en avait parlé. Il est sorti en octobre, justement. Eh oui, à ce moment-là, on parlait encore des films qui sortaient, puisque les salles avaient rouvert leurs portes et qu'on était tous très contents. Et c'est un film de Thomas Vinterberg, qui est un réalisateur danois. Et voilà, il a eu donc son César, qui a été remis par Vincent Dedienne. Ensuite, il y a un César aussi. Le César, en fait, le réalisateur n'était pas là. Le César a été récupéré par Carole Scotta, qui est une distributrice française qu'on connaît. Alors, il y a le César du meilleur film d'animation long-métrage qui s'appelle Joseph. Et c'est Aurel, le réalisateur français, là, le dessinateur de presse, Aurélien Froment, c'est son vrai nom, mais c'est Aurel, son nom d'artiste. Il a une quarantaine d'années, on connaît Aurel. C'est lui qui l'a réalisé. Joseph, pareil, très beau Joseph, à voir ce long métrage. C'est Chiara Mastroianni et Marjan Satrapi qui lui ont remis d'ailleurs son César. C'est normal, hein? Le César du meilleur film d'animation court-métrage a été remis à Agnès Patron, réalisatrice française, pour L'heure de l'ours. Là, ça dure 14 minutes. Le long-métrage dure 1h11, le Joseph. 14 minutes, L'heure de l'ours, très très beau court-métrage. Et alors, il y a eu des hommages aussi, bien sûr. Alors, il y a eu hommage à Michel Piccoli, il y a eu des extraits de films de Michel Piccoli. Il y a eu un hommage à Jean-Claude Carrière, dont on avait parlé ici, hein, sur Radio Entre-deux-Mers. On a eu aussi, nous, on lui a rendu hommage également. Hein. Alors, il y a eu des extraits de films qu'il a scénarisés, bien sûr. Et puis, Louis Garrel a parlé de lui, l'acteur Louis Garrel. Il y a eu un hommage pour Jean-Loup Dabadi, bien sûr, grand scénariste. Il y a eu un hommage pour Claude Brasseur également. Et Pierre Bacri, bien sûr. Jean-Pierre Bacri, bien sûr. Ici aussi, on avait rendu hommage à Jean-Pierre Bacri sur Radio Entre-deux-Mers. Hein. Pour rappel, bon, lui, il est décédé il y a très, très peu de temps parce que c'était en janvier 2021. Alors, il y a eu des extraits. Et à un moment donné, il y a eu quelque chose d'assez joli. Il y a eu un trucage qui animé sur le balcon de l'Olympia. L'Olympia, il y a la salle en bas, enfin, il y a le rez-de-chaussée, si je puis dire. Et puis, il y a un grand balcon, comme dans beaucoup de salles de spectacle, de cinéma. Et donc, sur ce balcon, tout d'un coup, on a vu arriver des personnages animés, voilà, qui s'installent sur les fauteuils rouges. Et on reconnaît Jean-Pierre Bacri parmi les personnages. Ça n'a pas duré longtemps, c'était très joli. Et puis, il y a eu un hommage aussi rendu à Ennio Morricone. On sait qui c'est. Hein. Il a écrit énormément de musique pour beaucoup de films. Et lui, il est décédé en 2020. Il avait 92 ans. Donc, il y a eu des images et des extraits musicaux d'Ennio Morricone. Voilà, ça, c'était des hommages bien mérités. Je trouvais que ça tombait bien quand même, effectivement. Voilà, et puis on a vu une liste aussi d'acteurs et d'actrices disparus. Parce qu'à chaque fois, hein, dans toutes les cérémonies, de toute façon, c'est comme ça.
Toujours un hommage sur les personnes qui sont parties dans l'année. Quoi.
Qui sont parties dans l'année, on voit leurs photos, on voit leurs noms. En dehors de tous ceux que je viens d'énumérer, dont on a vu évidemment beaucoup d'extraits. Voilà. Donc c'était, je pense que j'ai dit l'essentiel hein, par rapport à la remise des prix. En tout cas, c'est adieu les cons, mes chéris, à aller voir dès la réouverture des cinémas. Oh là là, oui, on croise les doigts, hein, absolument. Et puis après, il y en a plein d'autres à aller voir, hein, de toute façon. On en parlera hein, dès que les salles vont se rouvrir, n'est-ce pas Damien ?
Oui.
On parlera de tous les films qui sont à voir, qu'on peut voir, qu'on doit voir parfois, voilà. Bien.
Très bien. Eh bien, merci pour ce point sur les Césars. Et oui. Maintenant, nous allons retrouver les séances d'aujourd'hui avec un spécial film asiatique, mais plutôt kung-fu ou de samouraï. Quoi.
Oui, enfin, c'est-à-dire, il y a un peu de tout, parce qu'il y a beaucoup de romances aussi. Attention, c'est quoi ? C'est les arts martiaux, c'est la guerre, c'est les empereurs, c'est les impératrices, les princesses, les dynasties. C'était très important, les dynasties au Japon. Dynastie d'empereurs et d'impératrices. Enfin, il y a la Chine et le Japon, il y a les deux. En fait, il y a énormément de films qui sont très connus. Ceux-là, on ne va pas en parler parce qu'ils repassent souvent. Moi, j'en ai mis de côté, à part un qui est quand même très, très connu, mais sinon, j'en ai mis de côté qui sont moins connus, qui sont tout à fait extraordinaires. Voilà, c'est vraiment de très, très, très beaux films. Et voilà, c'est de ceux-là dont je voulais parler. Donc, j'en ai mis de côté, exprès pour vous, mes chéris. Voilà, il y en a 7 de côté.
Et nous allons débuter ce matin, avec La Porte de l'Enfer.
Oui, je suis désolée.
Un film de Tenosuke Kinugasa.
Voilà, c'est ça. Ben, c'est pas mal, hein, Tenosuke Kinugasa. Ouais, c'est pas. On a réussi, là.
Oui.
On a réussi. Ben, on a pris des cours, en fait, hein, de japonais, tout ça, bien sûr. En douce.
Histoire de se mettre dans l'ambiance.
Oui. Et voilà. Et La Porte de l'Enfer. Oui, alors on a dit, hein, que le réalisateur, il est scénariste également, il est japonais. Il est acteur aussi, écrivain. Il a écrit 2-3 livres. Il est décédé, lui, en 1982. Il avait 86 ans. Donc, parce que le film, quand même, date de 1953. Il dure 1h26. C'est donc en fait, La Porte de l'Enfer a quand même reçu le grand prix du Festival de Cannes en 1954, c'est-à-dire la Palme d'Or, hein, le grand prix. Il a eu un grand prix aussi du film le plus artistique à Locarno. Et il a reçu l'Oscar américain du meilleur film étranger. La Porte de l'Enfer, moi, c'est un film que j'aime énormément, je ne vous le cache pas. Et donc, alors, c'est quoi La Porte de l'Enfer ? Eh oui, ça se passe au 19e siècle, alors que le Japon traverse une guerre civile. Keza, une belle servante, une femme superbe, est utilisée pour détourner l'attention des rebelles de la famille impériale. L'un des samouraïs, les soldats, ce sont des samouraïs qui composent son escorte, tombe violemment amoureux d'elle, au point de demander sa main. Mais Keza est déjà mariée. Et oui, et à l'époque, ça ne se négociait pas. C'était quand même, c'est le 19e siècle là-bas, hein, donc voilà, c'est quand même, c'est vraiment, c'est un très très beau film. Je ne pouvais pas ne pas le citer, voilà, je ne pouvais pas ne pas le citer, c'est sûr. Son dernier film, Tenosuke Kinugasa, ben je n'ai pas suivi tous les cours, c'est pour ça. Tenosuke Kinugasa, son dernier film date de 1966. Il s'appelle Le Petit Fuyard. Et c'est une coproduction, d'ailleurs, avec l'Union soviétique. C'était quand même... Mais si à l'époque, en 1966, oui, il y avait beaucoup de... Oui, il y avait beaucoup de films avec, qui étaient produits aussi par l'Union soviétique. Oui, c'est vrai. Des très beaux films. C'est vrai que c'était 66. Hein, ouais. C'est terminé, tout ça. hélas. Voilà, donc c'était... Alors, dans les acteurs, bah, je vais quand même citer deux, trois noms, ne serait-ce que par... on ne les connaît pas vraiment. C'est-à-dire que dans ce film-là, non, mais il y a d'autres films dont je vais parler, dont on reconnaît. Il y a des acteurs qu'on reconnaît, on sait qu'on les a vus, ils ont des visages connus et sont des grands acteurs. Là, c'était un peu plus ancien, 1953. Alors, c'était... Il y avait Kazuo Hasegawa, il y avait Koreya Senda. C'était des acteurs quand même de très bons acteurs de l'époque. Hein. Ce film a été très primé parce qu'il est, il est très beau et que les acteurs sont formidables. Hein. Il n'y a rien à dire. Il y avait aussi Kenjiro Uemura. Enfin, c'était trois acteurs. J'ai regardé un peu tout ce qu'ils avaient fait, qui étaient quand même qui jouaient beaucoup à l'époque et qui étaient tout à fait connus chez eux là-bas. Voilà. Ça, c'était le premier.
Donc, le premier. Après, nous allons continuer avec Le Dernier Empereur, qui est un film sorti, il me semble, en 1987.
Oui.
Un film
oui.
D'une production italienne et également chinoise.
Voilà, c'est tout à fait ça. Il est très connu, celui-là, par contre. C'est le seul vraiment très connu de tous ceux que j'ai là.
You will be the son of heaven.
At the age of 3, he ascended to the dragon throne.
Et oui, à l'âge de 3 ans, il a accédé au trône du
dragon. Ah oui. C'est une histoire. Mais le film est extraordinaire.
C'est une histoire vraie.
Ah oui, ah ben c'est complètement. C'était vraiment celui-là. C'était lui qui était. Oui, il a existé absolument. Hein. C'est un film, d'ailleurs, quand on parlait de Dernier Empereur, on disait le film aux 9 Oscars. Oh, ben, Albert Dupontel est battu de 2 Oscars, là, on peut dire, puisque lui, il en accepte. Et c'était Bernardo Bertolucci, c'est un très, 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 très grand, un immense réalisateur, scénariste, acteur italien. Donc, Albert Dupontel est presque, voilà, il est presque arrivé comme lui. Hein. Oh, ils ont deux prix de différence, 2 Oscars de différence. Non, je plaisantais, Albert Dupontel a trop de talent pour qu'on puisse le comparer à qui que ce soit en ce moment. Voilà, je trouve. Non, mais Bernardo Bertolucci, lui qui est décédé en 2018, il n'était pas vieux, hein, il avait 77 ans. Bon, un problème de cœur, je pense, je crois que c'était un peu cardiaque. Voilà, et là, le film dure 2h25. Mais on ne s'ennuie pas une minute. C'est peut-être ça le génie d'un réalisateur. Ça dure 2h25 et on voudrait que ça continue, en fait. On ne s'ennuie pas du tout. Bernardo Bertolucci, a réalisé entre 1962 et 2014. Donc, il aurait pu continuer, en fait. Ce réalisateur est criblé, mais criblé de prix. Ça, on peut dire ça comme ça. C'est sûr. Alors, en fait, on va quand même dire que pour le resituer quand même, il y a des films qu'on connaît, qu'on a vus, qui sont très beaux. En 1993, c'était Little Buddha qui nous a réalisé, avec Keanu Reeves, qui est assez fabuleux dans le rôle d'ailleurs de Buddha. Keanu Reeves, un grand acteur. Bridget Fonda aussi. Puis en 1996, Beauté volée. C'est un drame romancé avec Liv Tyler, Jeremy Irons et Jean Marais. Il y a Jean Marais, oui, dans Beauté volée. Très, très beau film. C'était juste pour donner des titres. Et alors, un titre qui est très connu, c'est Un thé au Sahara. Alors celui-là est sorti en 1990. Il y a de l'aventure, il y a du drame, voilà. Et c'est avec John Malkovich, qui est un grand, grand acteur, on le sait, et puis Debra Winger, un thé au Sahara. C'est un film qui a vraiment... qui a très, très bien fonctionné. Ces trois films-là, de toute façon, ont très, très bien fonctionné. Ont été absolument adulés par les critiques. Enfin, voilà, quoi. Bah, comme tout ce qu'a fait Bernardo Bertolucci. Je crois qu'il n'en a pas raté un seul. C'était juste pour redonner, comme ça, des titres pour le situer. Et là, ça parle... Bah, oui, tu demandais si c'était une histoire vraie. Mais oui, tout à fait. Ça parle justement de... Ça se passe à Pékin, en 1908. Pouyi, s'appelle Pouyi, un enfant de 3 ans est enlevé à sa mère et conduit à la cité interdite. À la mort de l'impératrice douairière, l'enfant est proclamé empereur de Chine. Ainsi débute l'incroyable destin de l'empereur Pouyi. Il va connaître le pouvoir absolu, le luxe, l'argent, mais aussi la fin de l'empire, la révolution, la guerre, la prison et l'exil. Il restera à jamais dans l'histoire comme le dernier empereur. En fait, c'est une vocation qui est presque aux dimensions de la Chine. C'est de 1908 à 1967, la fin de sa vie, où il est devenu jardinier, cet empereur. Il est devenu jardinier du parc botanique de Pékin, en passant par la révolution chinoise durant laquelle il est rééduqué. Il est décédé le 17 octobre 1967. Il avait 61 ans, ce grand empereur. C'est une histoire incroyable, une histoire extraordinaire. Alors, on a, dans les acteurs, on a John Lone. Bon, on connaît, quand on le voit, on le connaît. Hein, c'est un acteur américain. On a Peter O'Toole, l'acteur britannique. Alors, lui, qui joue le rôle du professeur, enfin, c'est... je cherche le mot. C'est le professeur du petit empereur. C'est son... Quand on a quelqu'un comme ça qui vient à la maison faire des cours aux enfants, le mot m'échappe.
Son précepteur.
Merci, Damien, tu me soulages. Je l'aurais peut-être trouvé, mais dans une heure ou deux, quand ça n'était plus utile. Voilà, il est le précepteur. Il est extraordinaire dans ce film, d'ailleurs, Peter O'Toole. Bah, il était déjà avant, mais là, il est vraiment fabuleux. On a John Chen, qui est un acteur sino-américain. Aussi, on a Victor Wong qui est un acteur américain. C'est pareil, quoi. Le casting est fabuleux. Bah oui, bien sûr. Bernardo Bertolucci avait toujours des castings d'enfer. C'est vraiment, voilà, c'est très très beau film. Je pouvais pas ne pas en parler quand même. Je voudrais qu'il repasse plus souvent. Le problème, c'est que il dure quand même 2h25 et peut-être c'est pas évident à caser sur des chaînes, je sais pas. Dommage, parce qu'il faudrait qu'il passe plus souvent. Il est magnifique. Magnifique. Oui, voilà, on va quitter le dernier empereur. Où va-t-on maintenant ?
Et maintenant, on va retrouver la légende du Dragon Rouge, film sorti en 1994.
Oui.
Et on y va à cheval.
Ah oui. Magnifique, magnifique. Le Dragon, ah oui. Alors évidemment, là, il y a un nom qui ressort, là. Je vais le dire tout de suite parce que ça donne une idée, c'est Jet Li.
Jet Li, que l'on voit là, dès les premières images sur son cheval la bande-annonce.
Qui est un acteur absolument fabuleux. On ne peut pas dire le contraire.
Qui, avant de faire des grands films américains, et bien, voilà, il vient du film du cinéma asiatique.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ah ben oui, Jet Li, c'est presque un mythe, Jet Li, quasiment. Alors, la légende du Dragon Rouge, tu l'as dit, hein, 94, ça dure 1h35, et c'est un film de Jing Wong. Alors, Jing Wong, c'est un réalisateur, scénariste, producteur hongkongais. Il a 65 ans. En fait, hongkongais, ça veut dire chinois. Mais ça, on dit... C'est curieux parce qu'on va dire de quelqu'un qui est né n'importe où en Chine, comme ça, il est chinois. Mais quand tu es né à Hong Kong, on dit que tu es hongkongais. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux régions administratives spéciales de la République populaire de Chine. Il y en a deux. Il y en a une, c'est Macao. C'est pareil, on te dit, voilà. Et l'autre est Hong Kong, qui est la plus grande et la plus peuplée des deux. Voilà pourquoi quand tu... ça s'appelle d'ailleurs RAS, Région Administrative Spéciale, et non pas RAS, rien à signaler, hein, c'est pas du tout la même chose. Mais je trouvais ça un petit peu amusant. Et du coup, quand tu es né là-bas, Hong Kong, on te dit de toi, et toi tu dis « je suis hongkongais ». Tu ne dis pas je suis chinois, c'est très curieux. Mais ce sont des Chinois quand même.
Voilà. Mais non, Hong Kong a été longtemps anglais, donc oui. Ce ne sont pas des Chinois. Il y a une grande rivalité entre la Chine et Hong Kong.
Ah là. Oui, mais c'est fini ça, parce que là, il a 65 ans. Donc lui, c'était fini ça déjà, non? 65.
Je crois que c'est toujours des dissensions.
60. Ah, encore? Ah ouais? Mais enfin, eux, ils se considèrent comme Chinois quand même. Hein, les Hongkongais, si on leur demande, ils te disent, ben quoi, je suis Chinois, je suis né en Chine. Oui, non, Damien non, il a
pas,
des doutes.
Je ne suis vraiment pas sûr de ça.
Damien a des doutes. En tout cas, c'est Hongkongais parce que c'est une administration tout à fait particulière, spéciale, hein, voilà, avec Macao. Ah, Macao, c'est un mot qui fait rêver, ça. Macao. Voilà, donc le Jing Wong, alors le... Ah oui, mais il n'est pas tout seul, c'est une co-réalisation entre Jing Wong et Corey Wen, alors qui est un réalisateur, acteur hongkongais, voilà, on va le dire, qui a 70 ans. Alors eux, ils ont réalisé, bah, par exemple, Jing Wong a réalisé entre 1977 et 2017, et Corey Wen a réalisé entre 1981 et 2005. Ils ont fait pas mal de travail ensemble, d'ailleurs. Voilà. C'est... Alors lui, en fait, Jing Wong, il a un grand sens de la publicité, cet homme-là. Et c'est important dans ce métier aussi, finalement, d'avoir un grand sens de la publicité quand on réalise des films. Et il a un rôle très significatif d'après les journaux, hein, d'après dans le cinéma hongkongais depuis le milieu des années 70. Donc, il est très important pour le cinéma hongkongais, Jing Wong, et il a une place prépondérante, là. Ouais. Donc, son film est vraiment... c'est magnifique. Ça se passe en Chine. C'est Heng Jingwang, c'est le nom d'un moine. C'est un moine Shaolin qui est désespéré par la mort de sa famille et qui se révolte contre l'autorité impériale. Avec son jeune fils qu'il initie aux arts martiaux, il se lance à la recherche des meurtriers. En fait, c'est l'histoire épique d'un homme qui défia les limites du courage. C'était comme ça qu'on en parlait. Jet Li, alors là, il est là, il traverse les âges dans cette ancienne histoire de vengeance et de mort. Et alors, c'est quoi Shaolin, au fait, un moine Shaolin? Alors moi, je connaissais un petit peu, mais pas trop. Mais en réalité, le Shaolin, un moine Shaolin, c'est quelqu'un qui pratique une forme de bouddhisme. Voilà. Et le Shaolin, c'est un temple qui se trouve au centre de la Chine, dans la province du Henan, qui est très connu là-bas par eux. Voilà. Quand on parle du Shaolin, c'est un temple extrêmement important. Et on nous dit il faut aller le voir, il faut aller le visiter. Mais oui, mais c'est pas à côté quand même. Hein. C'est au milieu de la Chine. Donc voilà ce film qui est magnifique. Moi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette histoire, ce film. Il est bon, voilà, c'est beau comme tout. Ouais. Et Jet Li, évidemment. Ah, bah oui. Eh oui. Quand même, hein, quand même. Eh oui. Et puis, on quitte Jet Li et on va où?
On part retrouver la princesse du désert.
Chouette musique. Hein. La princesse du désert, sortie en 2002 et qui dure 2h08. Interdit au moins de 12 ans, hein. Vaut mieux le noter tout de suite. Oui, ça se comprend un peu parce qu'il y a quand même des batailles. Bon, il y a un peu de sang quand même. Hein. Il y a un peu de, ça coule un peu quand même. Alors c'est un... justement, je disais la musique parce que il y a une version française, mais elle est musicale. Et c'est ce qu'on vient d'entendre. Et c'est très entraînant. C'est une musique qui est très, très entraînante. Alors c'est un film de Sung Soo Kim, qui est un réalisateur, scénariste, acteur sud-coréen. Il a 47 ans. Il a réalisé, lui, entre 1978 et 2016. Donc, il n'a pas perdu de temps. Hein. Il a pas mal travaillé, lui. Alors, c'est quoi l'histoire de la princesse du désert? Ah, alors ça se passe en 1375. Les seigneurs Ming, c'est pour ça que je parlais de dynastie au départ. Hein. Les dynasties sont très importantes là-bas. La Ming, par exemple, est très importante. Donc, les Ming renversent l'empereur mongol qui gouverne la Chine. Humiliés, les cavaliers mongols s'enfuient après avoir kidnappé la princesse Ming. Eh oui, princesse chinoise. Des ambassadeurs coréens venus négocier la paix avec le nouvel empereur chinois vont tenter de récupérer la princesse pour s'attirer les faveurs de ce dernier. S'ensuit une course-poursuite et un affrontement qui ne laissera aucun peuple indemne. Ah oui, il y a des scènes épiques hein, là-dedans. Hein. Avec des décors superbes. Il y a des scènes d'arts martiaux qui sont d'une âpreté et d'une violence sans précédent. Voilà pourquoi c'est interdit au moins de 12 ans. Et ça en fait une des plus grandes fresques asiatiques jamais réalisées. La princesse du désert, c'est vraiment... Il y a un maximum là, de combats extraordinaires. Alors on a, concernant les acteurs, on a une actrice là qui est quasiment dans presque tous ces films magnifiques, parce qu'elle est magnifique elle-même, et qui s'appelle Zhang Ziyi. Elle est très, 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 très connue. On la voit, d'ailleurs, on l'a vue dans Tigre et Dragon aussi, qui est un grand film. Elle est très connue chez elle, très appréciée. Elle est magnifique, de toute façon. Voilà. Et c'est la princesse Ming qui est enlevée. C'est elle hein, qui a le rôle. Et puis on a aussi Ju Jin-mo, qui est un acteur sud-coréen. Elle est chinoise, hein, Ziyi Zhang, actrice chinoise. Donc on a Sung Ki-han, qui est un acteur sud-coréen. On a un autre acteur sud-coréen, Yang Woo Park. C'est un joli casting. Ils sont tous splendides. Mais vraiment, vraiment. Les hommes sont magnifiques. Et elle est, évidemment, enlever une princesse comme ça, on n'a qu'une envie, c'est de la récupérer, c'est certain. Et oui, puis en plus, c'est la future héritière, donc c'est quand même important dans ces dynasties-là. Les héritiers, les héritières étaient très importants, étaient gardés, vraiment, il fallait pas les approcher. La princesse du désert. Très beau, très beau, très beau film. Évadez-vous avec la princesse du désert et les soldats.
Et ensuite, on va continuer avec un film qui s'appelle Han Dynasty, l'épopée, sorti en 2005.
Et oui, ben on change de dynastie, mais c'en est une aussi, justement, Han Dynasty, 2. L'épopée. Ça dure 1h35. Alors c'est quoi? C'est un film de guerre historique, comme La Princesse du Désert, hein, drame, action, c'est l'histoire aussi, puis il y a de la romance, hein. Voilà, c'est ce que je disais aussi, il y a aussi des romances, dans ces films. Ils arrivent quand même à placer des scènes un petit peu, voilà, un petit peu romantiques, de temps en temps. Pas énormément, mais de temps en temps. Donc c'est une co-réalisation. Là, ils sont trois. C'est une co-réalisation hongkongaise, d'ailleurs. Donc ils sont trois. Il y a Wei Han Tao, réalisateur scénariste hongkongais, donc. Li Ji Kang. Voilà, qui est l'assistant, un assistant réalisateur. Et Wang Wei-ming, qui est également un réalisateur hongkongais. Donc, ils se sont mis à trois pour faire un très beau film. On ne sait pas grand-chose sur eux, par contre, sur ces trois. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé grand-chose sur ces trois réalisateurs, parce qu'en fait, il y a très peu de films qui sont passés en France, qui sont restés quand même plutôt là-bas. Donc, on les connaît beaucoup moins, même les acteurs, d'ailleurs. Si, à part Jacqueline Wu, quand on la voit, on l'a déjà vue dans d'autres films. Sinon, on a Xiao Rongcheng, qu'on connaît aussi dans d'autres films aussi, le visage. Il y a Un Jun, il y a Christy Yang aussi. Donc, c'est quand même... Alors, ce qu'on peut faire, si vous avez Internet, mes chéris, en tout cas, on peut les trouver, on peut trouver un tas d'indications sur ce cinéma hongkongais sur un site qui s'appelle HK Cinémagique. Hong Kongais Cinémagique, HK Cinémagique, et qui a été lancé d'ailleurs en novembre 2004, ce site. Pour ceux que ça intéresse vraiment, ce cinéma, justement, chinois, ou même... oui, c'est surtout là pour le cinéma hongkongais. Donc, il y a ce site, Internet, qui est bilingue. Voilà, éventuellement, pour ceux que ça peut intéresser. Et moi, je vais peut-être y aller voir. Je n'ai pas eu trop le temps là, mais j'aimerais en savoir un peu plus sur ces réalisateurs-là, hein, hongkongais. Alors, l'histoire, ben, c'est une histoire pareille. Hein, ça se passe en 221 avant Jésus-Christ. Le premier empereur Qin, c'est une autre dynastie, réunifie les six États en guerre pour en faire le premier empire centralisé. Le travail incessant exigé dans les dernières années du règne de Qin, ainsi que les brimades et arrestations arbitraires, des intellectuels, finirent par déclencher des révoltes. Oui, c'était pas très drôle quand même, la vie à ce moment-là. Hein. C'était pas l'empereur était tout puissant. Il avait une armée aussi quand même qui était assez puissante. Et du coup, si on n'était pas avec lui, on était contre lui. Et les intellectuels, souvent d'ailleurs, payaient des notes assez élevées. Donc forcément, à un moment donné, hein, ça barde. Et là, c'est l'histoire de la dynastie Han. H-A-N, hein, c'est pas Han, c'est la dynastie H-A-N, hein, la dynastie Han et la dynastie Qin. Et oui, en ces temps anciens où règne le chaos, apparaissent des héros légendaires. Voilà pourquoi c'est très beau. Les femmes sont très belles et les hommes sont très talentueux aussi. Beaux et talentueux, ils sont tous là. C'est des jolis castings, très agréables. Et oui, et alors ensuite, ben on va changer de dynastie encore. Mais oui, et là, on va aller où alors? Voyons, voyons.
On va retrouver la légende de Sud-Sakorn.
On va trouver la légende de Sud-Sakorn. Donc là, ben c'est qui ça, Sud-Sakorn? Ben on va le savoir tout très vite là. C'est un prénom, Sud-Sakorn. C'est le prénom d'un très très jeune garçon, presque un enfant au départ. Qui va grandir, bien sûr, mais au départ, c'est un enfant. C'était tourné donc... ça date de 2006, ça dure 1h53. Et le réalisateur s'appelle Kaizorn Buranasinghe.
C'est un film qui nous vient de Thaïlande.
Tout à fait, c'est un réalisateur thaïlandais. Kaizorn Buranasinghe.
Alors, de quoi nous parle ce film?
C'est un film thaïlandais fantastique aussi. Il y a du fantastique. Donc, on part en Thaïlande, voilà. Alors, de quoi il nous parle? Eh bien, Sud-Sakorn, donc je le disais, est un enfant vaillant, élevé par son grand-père selon certaines traditions ancestrales. Sa mère, une magnifique sirène, l'envoie à la recherche de son père qu'il n'a jamais connu. Équipé d'une arme magique, accompagné d'une créature mi-dragon, mi-cheval, Sud-Sakorn se met en quête. Son voyage sera semé d'embûches, de rencontres merveilleuses et de périls mortels. Bientôt, l'enfant se retrouve au cœur de l'éternel affrontement des hommes de courage et de bonne volonté contre les forces du mal. C'est d'ailleurs l'acteur qui joue le rôle, l'enfant, là, le Sud-Sakorn, il est adorable absolument. C'est vraiment. Alors, c'est en fait, ce film s'inspire d'un très long poème épique qui s'appelle Phra Aphaim Mani. Et c'est un grand poète thaïlandais qui est très connu là-bas, qui s'appelle Sun Thorm Phu, qui a donc écrit entre le 18e et le 19e siècle. Voilà. Et donc, ce très long poème parlant de cet enfant qui après devient guerrier sous de sa corne est un poème de cet homme-là, un grand, grand poème qui est très connu là-bas et qui est étudié à l'école. Et oui, excusez-moi, j'en perds la voix. En tout cas... c'est beau, c'est très beau. C'est la maman, la sirène, est très belle d'ailleurs. Alors, on a dans les rôles, on a Sud-Sakorn, l'acteur s'appelle Charlie Trerat. Et puis, la maman s'appelle Penane. Alors, ce sont des Thaïlandais, hein, tous quasiment. Ça, donc, les noms se ressemblent, la plupart, c'est très curieux. Elle, c'est Pemane Sungagart. C'est la maman dessus de sa corne, la sirène. Et le père, lui, c'est le prince Fra Afaimani, d'ailleurs, qui est le titre du poème, hein, c'est Suchai Sangakart. C'est un peu le même nom, mais il y a les premières lettres qui changent par rapport à la maman. On a Tsuchao Pongwile aussi, qui joue le grand-père. Très, très beau. C'est, voilà, c'est de la magie. C'est pareil, les acteurs sont formidables. On les suit. On est d'accord, on les suit. Voilà. Un beau casting aussi. De très belles scènes. La plupart des acteurs sont quand même relativement jeunes, à part le grand-père. Mais sinon, ils sont quand même assez jeunes. Ouais, des visages jeunes. Voilà, on va quitter Soutsakor. On le quitte. Au revoir, Soutsakor.
Et on va terminer avec le film An Empress and the Warriors.
Alors, on traduit une impératrice et les guerriers. Voilà, c'est une impératrice et des guerriers.
Alors là, c'est pareil, il y a les chars, il y a les chevaux, il y a des arcs.
Ah oui.
Et c'est la guerre.
Des casques, des costumes.
Des casques et des armures.
Eh oui. Et alors là, par contre, dans ce film, la plupart des visages des acteurs nous sont connus. On les a déjà vus, mais c'est sûr, hein, on en reconnaît au moins 3 ou 4. Ce qui n'était pas le cas de tous les films, là où il y avait un ou deux visages de temps en temps. Mais là, on en reconnaît vraiment. Enfin, si on a l'habitude, évidemment, de regarder le cinéma chinois ou japonais. Moi, je ne sais pas, ce sont des films qui me plaisent beaucoup. Moi, j'aime beaucoup le cinéma chinois et beaucoup le cinéma japonais. Mais je ne suis pas la seule. Hein. Chaque fois que je suis allée au cinéma en voir, je n'étais pas toute seule dans la salle. Donc, pour ceux que ça intéresse, il y a des visages vraiment qu'on connaît absolument, de très, très, très grands acteurs de là-bas. Alors, c'est un film qui a été réalisé par Tony Ching Chiu Tung. Hein, c'est beau quand même, ça. C'est un film d'action, hein, drame, romancé aussi, d'ailleurs. Tony Ching Chiu Tung, c'est un réalisateur, acteur, c'est un chorégraphe hongkongais donc, et cascadeur également d'ailleurs. Ouais. Au départ, il a participé à un tas de films comme chorégraphe arts martiaux, bien sûr, hein, je parle des arts martiaux là. Il a participé en tant que chorégraphe dans les années 2000 au succès mondial des films tels que Shaolin Saucer. Saucer, c'est football, hein, c'est un film sur le...
Alors, soccer, on dit.
Soccer, oui.
Shaolin Soccer.
Soccer, voilà, c'est football. Shaolin football. C'était sorti en 2001 de Stephen Chow. C'est un Hongkongais aussi, lui, un réalisateur hongkongais. Il a participé comme chorégraphe à Hero, le film Hero, qui est très connu, celui-là, de Zhang Yimou. Alors, Zhang Yimou, c'est un grand, grand, grand réalisateur hongkongais, hein. Très connu là-bas. Ce film est sorti, Hero, en 2002. Il a participé également au secret, Le secret des poignards volants. C'est un film qui est très connu aussi, de Zhang Yimou, justement, sorti en 2004. Et La cité interdite, qui est un film magnifique que je vous recommande, mes chéris. Vraiment. Qui est sorti en 2007, de Zhang Yimou également, qui est ce grand réalisateur hongkongais. Je ne dis pas chinois parce que Damien va me dire « Ah mais je ne sais pas, j'ai des doutes ». Donc je dis hongkongais. Voilà. Il a 70 ans, Zhang Yimou, il a vraiment réalisé des films merveilleux. Et donc, Tony Ching Tsung Tang, qui est le réalisateur du film dont on parle, a participé comme chorégraphe à tous ces films. Ce qui veut dire que c'est quand même un gars qui connaît bien son travail. Hein. Ah oui, pour avoir participé à des films aussi célèbres et qui sont des succès mondiaux. Et il y a de magnifiques combats d'arts martiaux dans ce film. Mais c'est les arts martiaux dans ce qu'ils ont de plus beau, quoi, de plus élégant, de plus... Voilà, c'est vraiment... Alors ça se passe 370 ans avant Jésus-Christ. Ça se passe en Chine, donc. Les royaumes ennemis du Yang et du Zhao. Alors c'est pareil, c'est des dynasties, Yan et Zhao, s'affrontent dans une guerre sans merci pour le contrôle du pays. Wu Ba, un guerrier Yan, assoiffé de pouvoir, tue son propre roi sur le champ de bataille. Il faut suivre parce que les histoires sont un peu compliquées. Mais c'est ça quand même, pour ramener le pays au sein... il veut ramener la paix au sein du pays. Voilà, j'allais dire le contraire. Pour ramener la paix au sein du pays, le général Muyong va obliger la princesse Yen, l'héritière du trône, à suivre une formation militaire. Alors qu'un des opposants de Yen tente de la tuer, un mystérieux inconnu vole à sa rescousse. Cet inconnu, qui était autrefois le plus valeureux des guerriers, va aider la princesse à se préparer et à monter sur le trône. C'est après une nouvelle attaque perpétrée à l'encontre du royaume de Yan que la princesse Yen prend conscience de sa destinée et comprend que le sort de tout un peuple repose entre ses mains. Épaulée par le général, la princesse va livrer une bataille sanglante mais décisive. Belle histoire. Alors, on a Donnie Yen, on le connaît, on connaît ce visage. On a Kelly Chen, on connaît ce visage. On a Go Yong-dong, on le connaît aussi. Ce sont des acteurs chinois. Et on a Leon Lai, qu'on connaît aussi. Voilà, des visages qu'on connaît si on est adepte de ce genre de cinéma. Ah. Et oui, c'était donc Une princesse et les guerriers, An Empress and the Warriors. C'est plutôt, si on le cherche, le film, ce sera sur ce titre-là. C'est plutôt le titre anglais, si on cherche le DVD, par exemple. Ils sont tous sortis en DVD, au fait, ces films-là. Action, drame, romance.
Donc, on doit pouvoir les retrouver en version originale sur le DVD, sous-titré.
Tout à fait. Tout,
dans
voilà,
les bonnes conditions.
Absolument.
Parce qu'on va dire que les films asiatiques sous-titrés en français, c'est pas terrible.
C'est pas terrible, non. Non, c'est vrai. Il vaut mieux regarder la...
Parce que souvent, en plus, les bruitages restent dans la version originale et il n'y a que les voix qui sont en version française.
Tout à fait.
Du coup, c'est vraiment pas terrible.
Non, c'est vrai. C'est bien que tu le dises parce que j'allais le dire. J'avais oublié de dire qu'il valait mieux quand même regarder la version originale sous-titrée. C'était quand même nettement mieux. Ah oui, pour tous ces films, oui. Tout à fait. Ça a une autre saveur, évidemment. Quand ils parlent leur langue, quoi, c'est autre chose. Moi, je sais, effectivement, chaque fois que je vais au cinéma, enfin, quand j'y allais, parce que pour l'instant, et qu'on me demandait si j'allais dans l'allée d'un film japonais ou chinois, je sais qu'à la caisse, on me demandait, vous voulez la version française ou la version originale? Et moi, j'ai toujours répondu version originale. Et je me souviens qu'à la caisse, il y avait un petit regard étonné un peu. Tiens, comment ça se fait? Je disais, vous savez, c'est parce qu'ils sont tellement mieux en version originale. Mais ça étonnait toujours un petit peu. Mais oui, c'est vraiment mieux en version originale, évidemment. Bah oui, chinois, japonais. Voilà. Tout est dit, n'est-ce pas?
C'est ça. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour ce film. Cette série de films orientaux.
Oui, ce sont de très très beaux films. Ah, bah oui, pour les gens qui aiment. Et des titres moins connus que ceux que j'ai cités tout à l'heure, là, Héros, Secret des poignards volants, etc., qui sont très connus, qui sont magnifiques, mais ceux-là aussi, et ils sont moins connus. C'est pour ça que je pensais que ça pouvait faire plaisir à certains de nos auditeurs qui aiment ce cinéma, spécialement.
Très bon choix.
Merci, monsieur.
Et je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent retrouver les podcasts sur le site de la radio www.re2m.com. Dans la catégorie podcast, vous cliquez sur la conversation autour du cinéma.
Tout à fait.
Bonne semaine à toi, Anna.
Oui, bonne semaine à toi aussi. J'allais justement te dire au revoir. Voilà, et puis mes petits chéris, c'est pareil, passez une bonne semaine, soyez bien heureux, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Essayez de l'être un maximum de toute façon. Carpe diem aussi, pensez à carpe diem. Et puis n'oubliez pas, je vous aime. Bisous.
Silence. We'll be right back. aux yeux, tu sais.